Classé envahissant leur couloir. Un éclat de voix en provenance de la pièce voisine lui fit baisser son journal. Il écouta une seconde, haussa les sourcils et reprit son article. Il s'agissait d'une énième controverse opposant la volcanique Eva Rosière et l'insubmersible Merlot. Ils discutaient sans cesse, pas forcément de la même chose au même moment, mais cela ne semblait pas les gêner le moins du monde. On pouvait les entendre d'ici argumenter autour du billard, dernière acquisition en date de la capitaine romancière scénariste millionnaire qui, du 36 au parquet, avait vexé tous les cadors qu'elle intégrait à ses feuilletons pour mieux les ridiculiser. Depuis qu'elle avait débarqué dans cette brigade de la rue des Innocents, elle aménageait les locaux avec une retenue de plus en plus relative. Quand, la veille, elle avait évoqué l'achat d'un baby-foot pour distraire Dax et Levitz, Capestan lui avait demandé si elle comptait aussi faire payer l'entrée du commissariat ou distribuer des jetons. Merlot, qui se tenait à leur côté, avait semblé étudier la question sans en saisir l'ironie. Rosière, fin stratège sous ses airs de butor, avait reculé. Capestan ne doutait pas du caractère provisoire de la manœuvre. La commissaire s'éloigna de l'imprimante pour gagner ce qui était donc devenu la salle de jeu, avec l'apparition du billard anglais, de sa lampe rectangle à franges, des quatre fauteuils club, du râtelier et d'un magnifique bar au comptoir de chêne massif assorti de ses tabourets. Eva avait dégainé des arguments massus. « Maintenant c'est réglé, Anne. Il n'y a plus un Pékin qui voudra rejoindre la brigade. Autant meubler l'espace, ça fera moins triste. » La pièce, en effet, ne dégageait plus la moindre tristesse, ni d'ailleurs le moindre espace. Son mètre cube bien ancré au sol, une expression de mâle fierté sur le visage, Merlot, ancien capitaine de la Mondaine, alcoolique franc-maçon à l'entrejambe bien rodé, se tenait droit sous la tempête, queue de billard dans une main, ballon de rouge dans l'autre. Des traces de craie bleue maculaient son veston. Rosière poursuivait sa diatribe.
« C'est pour tout pareil. Regarde la corne de rhinocéros. Un jour, il y a un mou du plumard qui a croisé un rhino. Il s'est dit « Waouh, balèze, j'aimerais bien la même, ça se trouve, il suffit de la piler et de la bouffer pour que ça marche. » Et depuis, tous les bitos inquiets de la planète exterminent l'espèce pour ranimer Popol.
Pilote, le chien de Rosière, assis à ses pieds, l'écoutait religieusement. Il tourna la truffe vers Merlot pour voir ce qu'il avait à répondre à ça.
« Exactement, cher ami, la vitalité. Je suis bien d'accord, c'est elle qui engendre vastes conquêtes et progrès scientifiques. »
approuva le capitaine, le geste auguste, manquant éborgné de sa canne la lieutenant Évrard. Celle-ci, renvoyée de la brigade des jeux pour addiction au tapis vert, se tenait la hanche appuyée à la table et attendait stoïquement la fin de la conversation en pianotant sur le bois brillant. Elle tournait le dos, plus ou moins involontairement, au lieutenant Torres, qui s'était rencogné dans un fauteuil au fond de la salle, sa queue de billard posée contre l'accoudoir. Capestan s'approcha de lui. « Qu'est-ce qui gagne ?»«
Pour le débat ou la partie ?»«
La partie. »«
Dans ce cas, c'est moi. »«
Tu joues avec qui ?» Torres se renfrogna.
« Moi. »
Torres, une fois encore, ne faisait équipe avec personne. Ils avaient préféré disputer la partie à 3-1. C'était un progrès. Il y a seulement un mois, il n'aurait pu respirer l'air de la pièce sans en faire fuir chacun des occupants. Sa sinistre réputation de porte-malheur allait certes en s'amenuisant, mais par tout petits paliers. Chacun, y compris Torres, surtout Torres, continuait d'observer des règles de saine prudence. Seul Capestan approchait à sa guise, ne tolérant pas qu'une quelconque superstition vienne entraver ses déplacements. Le chant d'un grillon savourant le soleil s'échappa de la poche de Capestan. C'était son portable. Sur l'écran, le nom de Buron s'inscrivit. Un mois déjà s'était écoulé depuis le dernier appel du directeur de la police judiciaire. Celui-ci l'avait prévenu que sa promesse était honorée et qu'une nouvelle voiture, dans un état correct, les attendait. Le brigadier Levitz, maniaque du volant, l'avait assez rapidement cassé. Pour la suite, en attendant que les esprits des collègues et médias se calment, Buron avait recommandé à la brigade de faire profil bas. La commissaire avait objecté qu'il n'était déjà pas bien haut. Mais elle comprenait, un sas de temporisation était sans doute nécessaire. Si Buron la contactait aujourd'hui, peut-être une bonne nouvelle se profilait-elle. Capestan décrocha.
« Bonjour, monsieur le divisionnaire. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ?»
La stéréo d'Orsini, immuablement réglée sur Radio Classique, diffusait une sonate de Schubert. Pour une fois, le capitaine ne l'entendait pas. Absorbé, il aplanissait de la main une page du quotidien La Provence. Le titre courait sur trois colonnes. Jacques Maire, figure de l'île sur la Sorgue, assassiné en pleine rue. Orsini prit ses ciseaux dans le porte-crayon et découpa l'article avec soin. Puis, il ouvrit un tiroir et choisit une chemise cartonnée rouge dans laquelle il glissa le document. Il rabattit les élastiques, déboucha son feutre noir et le tint en suspension quelques secondes. Il ne savait trop quoi inscrire. Finalement, il reposa le feutre et rangea la chemise, sans titre, dans le tiroir. Chapitre 2. Sous son ciel opaque, la capitale avait revêtu ses oripeaux d'hiver. Une pluie fine et grasse contraignait les Parisiens à marcher tête basse, le regard fuyant sur le pavé, déjà abattu par cette journée qui commençait à peine. Le menton enfoncé dans sa grande écharpe chinée, couverte d'un épais manteau noir à capuche, Capestan manœuvrait parmi la forêt de parapluies des piétons de la rue Daguerre. Elle rejoignait à grands pas la rue Gassendi, entièrement coupée à la circulation sur la portion qui rejoignait la rue Froidevaux pour cause de scènes de crime. Le cadavre avait été découvert 2 heures plus tôt, une affaire toute fraîche. Capestan, dont les caisses de dossiers périmés s'empilaient au bureau, se demanda ce qui lui valait cet honneur, ce retour aux actualités. Les inévitables badauds se dévissaient le cou pour apercevoir un détail d'exclusivité derrière les bandeaux de sécurité et les épaules des policiers récalcitrants. La commissaire fendit la foule des commères, présenta sa carte en souriant et passa le barrage, cherchant du regard la haute silhouette du patron du 36. En plus des flics du secteur et de l'identité judiciaire, elle identifia des lieutenants de la criminelle, sans doute saisis de l'affaire, et remarqua un fourgon de la BRI curieusement stationné en haut de la rue. Si l'on ajoutait sa propre présence, on obtenait un panel de brigade un peu trop large pour un simple meurtre. Décidément, cette convocation l'intriguait. Buron, les mains enfoncées dans les poches de son duffelcoat kaki, toisait l'agitation de ce petit monde d'un œil peu satisfait. À l'approche de Capestan, il esquissa un sourire aussitôt réprimé.
« Bonjour, commissaire. »
Celle-ci ôta sa capuche pour élargir son champ de vision et répondre au directeur.
« Bonjour, monsieur le divisionnaire. De quoi s'agit-il ? On est nombreux, en tout cas. »
« Oui, très. Trop !»
compléta Buron en pivotant pour survoler l'assemblée fourmillante. Capestan recala son menton sous son écharpe.
« Pourquoi vous nous appelez en surnombre ?»«
Parce que la victime est un cadre de la BRI. Et je sais déjà dans quelle voie cette brigade et la crime vont s'engouffrer. Ils vont remuer toutes les vieilles rancunes du banditisme, creuser des histoires de flics depuis Broussard jusqu'à nos jours, et négliger toutes les pistes qui ne servent pas la légende.
Le meurtre d'un cadre. Une histoire qui ne servirait pas la légende. Capestan avait peur de comprendre.
Monsieur le directeur, ne me dites pas qu'il va encore falloir taper sur un flic. Les collègues nous jettent déjà des cailloux.
Capestan n'était pas spécialement attentive à son image de marque, ce qui, il fallait le reconnaître, tombait plutôt bien. Mais à la longue, la sensation de rejet usait les plus indépendants. Il fallait beaucoup de courage, ou beaucoup d'indifférence, pour se tenir le regard clair sous la désapprobation.
Non, je ne vous demande pas forcément de taper sur un collègue, simplement d'envisager l'ensemble des pistes, comme dans n'importe quelle enquête. Cela dit, oui, vous risquez de vous heurter à une certaine incompréhension.
Buron expira l'esquisse d'un soupir. Il frotta ses mains gantées l'une contre l'autre et se résolut à poursuivre en toute franchise.
« Pour ne rien vous cacher, ma volonté de vous rattacher à l'affaire n'emballe pas les foules. La crime estime qu'elle n'a besoin de personne pour mener ses enquêtes et que c'est déjà bien suffisant d'avoir la BRI dans les pattes sans en rajouter avec les moutons noirs. »
Capestan chassa une mèche humide de son visage.
« J'imagine bien, mais je comprends pas, le parquet nous a saisis.
s'étonna Capestan.